Jonathan Swift, Instructions domestiques. Chapitre 6, Instructions à l'intendant et au régisseur. L'intendant de Lord Peterborough, qui démolit sa maison, vendit les matériaux et fit payer les réparations à Mylord. Prenez de l'argent des tenanciers. Pour ne rien dire. Renouvelez les baux et gagnez dessus et vendez des bois. Prêtez à Mylord son propre argent. Gil Blas en dit beaucoup là-dessus. Je vous renvoie à lui. Chapitre 7. Instruction au portier. Si votre maître est un ministre d'État, qu'il ne soit au logis que pour son complaisant ou flatteur en chef, ou un des écrivains qu'il pensionne, ou son espion ou dénonciateur à gages, ou son imprimeur ordinaire, ou son solliciteur de la cité, ou son courtier de bienfonds, ou son inventeur de fonds nouveaux, ou son adjuteur. Chapitre 8. Instruction à la chambrière. La nature de vos fonctions diffère suivant la qualité, l'orgueil ou la richesse de la dame que vous servez. Et ce traité doit s'appliquer à toutes sortes de maisons. En sorte que je me trouve dans un grand embarras pour régler au mieux la besogne à laquelle vous êtes tenu. Dans les familles où il y a de l'aisance, vous différez de la fille de service et c'est à ce point de vue que je donne mes instructions. Votre département spécial est la chambre de votre maîtresse, où vous faites le lit et mettez les choses en ordre. Et si vous vivez à la campagne, vous prenez soin des chambres où couchent les dames qui viennent à la maison, et c'est de là que viennent tous vos profits. Votre amoureux, à ce que je suppose, est le cocher. Mais si vous êtes au-dessous de 20 ans et passablement bien, peut-être un laquais peut jeter les yeux sur vous. Faites-vous aider par votre laquais favori à faire le lit de votre maîtresse. Et si vous servez un jeune couple, le laquais et vous en retournant les draps, vous ferez les plus jolies observations du monde qui, comptées à l'oreille, seront très divertissantes pour toute la maison et circuleront dans le voisinage. Ne descendez pas les vases indispensables pour les faire voir aux gens, mais videz-les par la fenêtre, par considération pour votre maîtresse. Il est tout à fait inconvenant que les domestiques mâles sachent que les belles dames font usage de tels ustensiles. Et ne nettoyez pas le pot de chambre. L'odeur en est malsaine. S'il vous arrive de casser quelques porcelaines, avec le bout de la vergette, sur la cheminée ou sur le cabinet, ramassez les morceaux, rajustez-les aussi bien que possible et mettez-les derrière le reste, afin que lorsque votre maîtresse viendra à les découvrir, vous puissiez dire en conscience qu'ils sont cassés depuis longtemps avant votre entrée en service. Ceci épargnera à votre maîtresse plusieurs heures de vexation. Il arrive parfois qu'un miroir se casse de la même manière. Tandis que vous regardez d'un autre côté en faisant la chambre, le manche du balai frappe contre la glace et la met en pièces. C'est le plus grand de tous les malheurs, et s'en remède en apparence parce qu'il est impossible à cacher. Un funeste accident de ce genre arriva un jour dans une grande maison où j'avais l'honneur d'être laquais, et j'en veux raconter les particularités pour montrer l'adresse de la pauvre chambrière dans une circonstance si soudaine et si terrible, qui servira peut-être à stimuler votre esprit d'invention si votre mauvaise étoile vous en fournit jamais une occasion semblable. La pauvre fille avait cassé d'un coup de son balai un miroir en lac de grande valeur. Elle n'eut pas réfléchi longtemps que, par une prodigieuse présence d'esprit, elle ferma la porte à clé, descendit à la dérobée dans la cour, rapporta dans la chambre une pierre du poids de 3 livres, la posa sur le foyer juste au-dessous du miroir, puis cassa un carreau de la fenêtre à coulisses qui donnait sur cette même cour, puis ferma la porte et s'en alla à ses autres affaires. 2 heures après, la dame entrait dans sa chambre, voit le miroir cassé, la pierre gisant au-dessous et tout un carreau de la croisée détruit. De toutes ces circonstances, elle conclut juste ce que la chambrière avait désiré, que quelque vagabond du voisinage, ou peut-être un des valets d'écurie, avait par méchanceté, par accident ou par négligence, jeté la pierre et fait le dégât. Jusque-là, tout allait bien, et la fille se croyait hors de danger. Mais son malheur voulut que, quelques heures après, arriva le ministre de la paroisse, et naturellement la dame lui conta l'accident, qui, vous pouvez le penser, l'avait fort chagrinée. Le ministre, qui se trouvait savoir les mathématiques, après avoir examiné la position de la cour, la fenêtre et la cheminée, convainquit bientôt la dame que la pierre n'aurait pu atteindre le miroir sans faire 3 détours dans son vol à partir de la main qu'il aurait lancée. Et comme il fut prouvé que la fille avait nettoyé la chambre le matin même, elle fut strictement interrogée, mais nia résolument être coupable sur son salut, offrant de prêter serment sur la Bible devant sa révérence, qu'elle était aussi innocente que l'enfant qui n'est pas né. Cependant, la pauvre créature fut renvoyée, ce que je considère comme un dur traitement vu son adresse. Mais ce doit être un avertissement pour vous, en pareil cas, d'inventer une histoire qui soit mieux combinée. Par exemple, vous pourriez dire que tandis que vous étiez à l'ouvrage avec une mope ou un balai, il est venu soudain à la fenêtre un éclair qui vous a presque aveuglé, que vous avez entendu immédiatement un bruit de verre cassé sur le foyer, que dès que vous avez recouvré la vue, vous avez aperçu le miroir tout en pièces. Ou vous pouvez alléguer que remarquant le miroir un peu couvert de poussière, et allant tout doucement pour l'essuyer, vous supposez que l'humidité de l'air avait dissous la colle ou le ciment, ce qui l'a fait tomber à terre. Ou bien, sitôt le malheur fait, vous pouvez couper les cordes qui retiennent le miroir à la boiserie et le laisser tomber à plat, courir tout effrayé le dire à votre maîtresse, maudire le tapissier et déclarer que peu s'en est fallu qu'il ne soit tombé sur votre tête. J'offre ces expédients dans le désir de défendre l'innocence, car certainement vous êtes innocent si vous n'avez pas cassé les miroirs exprès, ce que je n'excuserai pour rien au monde, à moins de grands sujets d'irritation. Huiler les pincettes, le poker et la pelle jusqu'en haut, non seulement pour les préserver de la rouille, mais pour empêcher les touche-à-tout d'user le charbon de votre maître en attisant le feu. Quand vous êtes pressé, balayez la poussière dans un coin de la chambre, mais laissez le balai dessus afin qu'on ne la voie pas, car cela vous déshonorerait. Ne lavez jamais vos mains, ni ne mettez un tablier propre que vous n'ayez fait le lit de votre maîtresse, de peur de chiffonner votre tablier ou de ressalir vos mains. Quand vous mettez la barre des volets de la chambre de votre maîtresse le soir, laissez les fenêtres ouvertes pour que l'air frais puisse entrer et que la chambre soit purifiée le matin. En même temps que vous laissez les fenêtres ouvertes pour avoir de l'air, laissez les livres ou autres objets sur le rebord de la fenêtre, afin qu'ils puissent prendre l'air aussi. Quand vous balayez la chambre de votre maîtresse, ne vous arrêtez jamais à ramasser les chemises, mouchoirs, barbes sales, pelotes, petites cuillères, rubans, pantoufles, ou quoi que ce soit qui se trouve sur votre chemin. Mais balayez le tout dans un coin, et alors vous pouvez le prendre d'un seul coup et économiser le temps. Faire les lits par la grande chaleur est une besogne fort pénible, et vous serez exposé à suer. C'est pourquoi quand vous voyez les gouttes vous tomber du front, essuyez-les à un coin du drap afin qu'on ne les voie pas sur le lit. Quand votre maîtresse vous envoie laver une tasse de porcelaine et que la tasse tombe, rapportez-la et jurez que vous l'aviez à peine touchée qu'elle s'est brisée en trois morceaux. Et ici, je dois vous prévenir aussi bien que tous vos camarades que vous ne devez jamais être sans excuse. Cela ne fait pas de mal à votre maître et cela atténue votre faute. Comme dans ce cas, je ne vous loue pas d'avoir cassé la tasse, mais il est certain que vous ne l'avez pas fait exprès. Il n'est pas impossible qu'elle se soit brisée dans votre main. Vous avez quelquefois envie de voir un enterrement, une dispute, un homme qu'on va pendre, une noce, une entremetteuse attachée au cul d'une charrette, ou autre chose de ce genre. Lorsque la chose se passe dans la rue, vous levez le châssis subitement, mais par malheur il ne veut pas bouger. Ce n'est pas votre faute. Les jeunes filles sont curieuses de leur nature. Vous n'avez pas d'autre remède que de couper la corde et de jeter la faute sur le menuisier, à moins que personne ne vous ait vu. Et alors vous êtes aussi innocente qu'aucun domestique de la maison. Portez la chemise de votre maîtresse lorsqu'elle l'a quittée. Cela vous fera honneur, économisera votre linge et ne lui fera pas tort d'une épingle. Quand vous mettez une taie d'oreiller blanche au lit de votre maîtresse, ne manquez pas de la bien attacher avec de grosses épingles afin qu'elle ne se défasse pas la nuit. Quand vous faites des tartines de beurre pour le thé, ayez bien soin que tous les trous du pain restent pleins de beurre afin de maintenir le pain humide pour le dîner et que la marque de votre pouce se voit seulement sur un bout de chaque tartine, afin de montrer votre propreté. Quand on vous a ordonné d'ouvrir ou de fermer une porte, une malle ou un cabinet, et que vous n'avez pas la clé qu'il faut, ou que vous ne pouvez la distinguer dans le trousseau, essayez la première que vous pouvez fourrer dedans, et tournez-la de toute votre force jusqu'à ce que la porte s'ouvre ou que la clé se brise, car votre maîtresse vous regarderait comme une sotte de revenir sans avoir rien fait. Chapitre 9. Instruction à la femme de chambre. Deux incidents sont venus diminuer les agréments et les inconvénients de votre place. Le premier est cette exécrable coutume adoptée par les dames de troquer leurs vieux habits contre de la porcelaine, ou d'en recouvrir les bergères, ou d'en faire des arlequinades pour écrans, tabourets, coussins, etc. La seconde est l'invention des coffrets et boîtes fermant à clé, où elles gardent le thé et le sucre, sans lesquels une femme de chambre ne saurait vivre. Car, de cette façon, vous êtes obligée d'acheter du sucre bille et de verser de l'eau sur les feuilles lorsqu'elles ont perdu leur force et leur goût. Je ne trouve pas de remède parfait à ces deux mots. Quant au premier, je pense qu'il devrait y avoir une ligue générale de tous les domestiques de chaque maison pour le bien public, à l'effet d'interdire la porte à ces revendeurs de porcelaine. Et quant au dernier, il n'est pas d'autre moyen de vous tirer d'affaire qu'une fausse clé, ce qui est chose difficile et dangereuse. Mais pour ce qui est de l'honnêteté du fait, je n'ai aucun doute. Quand votre maîtresse vous fournit un si juste grief en vous refusant un profit ancien et légal. La marchande de thé peut bien vous en donner de temps à autre une demi-once, mais ce n'est là qu'une goutte d'eau dans le seau. C'est pourquoi j'ai peur que vous ne soyez forcé, comme le reste de vos sœurs, d'en acheter à crédit et de le payer sur vos gages, autant qu'il peut s'étendre, ce que vous pouvez facilement compenser d'autre côté si votre maîtresse est jolie ou que ses filles aient de bonnes dotes. Si vous êtes dans une grande maison et au service de madame, vous plairez probablement à Mylord, quoique vous ne soyez pas moitié aussi bien que sa femme. En ce cas, ayez soin de tirer de lui autant que vous pouvez, et ne lui permettez aucune liberté, pas même de vous serrer la main, à moins qu'il ne mette une guinée dedans. Ainsi, par degrés, faites-le payer en conséquence pour chaque nouvelle tentative, doublant en proportion des concessions que vous lui faites, et toujours vous débattant et menaçant de crier ou de le dire à votre maîtresse, quoique vous receviez son argent. 5 guinées pour manier votre gorge, c'est vraiment donné, quoique vous sembliez résister de toutes vos forces. Mais ne lui accordez jamais les dernières faveurs à moins de 100 guinées ou d'une rente viagère de 20 livres par an. Dans une pareille maison, si vous êtes jolie, vous pouvez choisir entre 3 amants, le chaplain, l'intendant et le valet de chambre de My Lord. Je vous conseillerais d'abord de faire le choix de l'intendant. Mais s'il vous arrive d'être récemment grosse de My Lord, il faut vous accommoder du chaplain. Le valet de chambre me plaît le moins des 3, car il est d'ordinaire vain et impertinent une fois qu'il a jeté bas sa livrée. Et s'il manque un grade dans l'armée et une place de douanier, il n'a pas d'autre ressource que le grand chemin. Je dois vous mettre particulièrement en garde contre le fils aîné de My Lord. Si vous êtes assez adroit, il est à parier que vous pouvez amener le Benet à vous épouser et à faire de vous une lady. Si c'est un simple libertin, et il faut qu'il soit l'un ou l'autre, évitez-le comme Satan, car il a moins peur de sa mère que My Lord de sa femme. Et après 10 000 promesses, vous n'aurez de lui qu'un gros ventre ou une claque, et probablement tous les deux. Quand votre maîtresse est malade, et après une très mauvaise nuit, repose un peu le matin, si un laquais arrive avec un message pour savoir comment elle va, que le compliment ne soit pas perdu, mais secouez-la doucement jusqu'à ce qu'elle s'éveille. Et alors, rendez le message, recevez sa réponse et laissez-la dormir. Si vous êtes assez heureuse pour être auprès d'une riche héritière, vous devez vous y prendre bien mal si vous n'attrapez pas 500 ou 600 livres pour disposer de sa main. Mettez-lui souvent dans l'esprit qu'elle a assez de fortune pour faire le bonheur de n'importe qui, qu'il n'en est de véritable que dans l'amour, qu'elle est libre de choisir qui bon lui semble et sans l'avis de ses parents, qui ne font jamais la part d'une passion innocente, qu'il y a quantité de beaux et charmants jeunes gens dans la ville qui seraient ravis de mourir à ses pieds, que la conversation de 2 amoureux, c'est le ciel sur la terre, que l'amour comme la mort égalise toutes les conditions, que si elle jetait les yeux sur un jeune homme au-dessous d'elle, comme naissance et comme bien, le don de sa main ferait de lui un gentleman, que vous avez vu hier sur le mall le plus joli conseil, et que si vous aviez 40 livres, elle serait à son service. Ayez soin que chacun sache auprès de qui vous vivez, quelle grande favorite vous êtes, et comprend toujours votre avis. Allez souvent au parc de Saint James. Les beaux garçons vous y découvriront bientôt et trouveront moyen de glisser une lettre dans votre manche ou dans votre sein. Ôtez-la avec fureur et jetez-la par terre, à moins que vous n'y trouviez au moins 2 guinées. Mais en ce cas, ayez l'air de ne pas les voir et de penser qu'on a voulu seulement badiner avec vous. Quand vous rentrez, laissez négligemment tomber la lettre dans la chambre de votre maîtresse. Elle la trouve, elle se fâche. Protestez que vous n'en saviez rien. Seulement, vous vous souvenez qu'un monsieur dans le parc a tâché de vous prendre un baiser et vous croyez que c'est lui qui aura mis la lettre dans votre manche ou dans votre corsage. Et vraiment, c'était un aussi joli homme que vous n'en ayez jamais vu. Après cela, elle peut brûler la lettre si elle veut. Si votre maîtresse est une fille d'esprit, elle brûlera quelque autre papier devant vous et lira la lettre quand vous serez descendu. Vous devez continuer ce manège aussi souvent que vous pourrez le faire en sûreté, mais que celui qui vous paie le mieux à chaque lettre soit le plus bel homme. si un laquais ose vous apporter une lettre à la maison, afin que vous la remettiez à votre maîtresse, quand elle viendrait de votre meilleure pratique, jetez-la à sa tête, traitez-le d'impudent drôle et de gredin, et fermez-lui la porte au nez. Montez vite chez votre maîtresse, et, comme preuve de votre fidélité, racontez-lui ce que vous avez fait. Je pourrais m'étendre beaucoup sur ce sujet, mais je me fie à votre jugement. Si vous servez une dame qui soit un peu disposée à la galanterie, vous verrez qu'il faudra apporter une grande prudence dans votre conduite. Trois choses sont nécessaires à savoir. La première, comment plaire à votre maîtresse. La deuxième, comment prévenir les soupçons du mari ou de sa maison. Et enfin, mais surtout, comment faire tourner la chose à votre plus grand avantage. Vous donner des instructions complètes dans cette importante affaire exigerait un gros volume. Tous les rendez-vous à domicile sont dangereux, tant pour votre maîtresse que pour vous-même. C'est pourquoi faites en sorte, autant que possible, de les avoir chez un tiers. Particulièrement si votre maîtresse, comme il y a 100 à parier contre un, a plusieurs amants, dont chacun est souvent plus jaloux que 1000 maris. Et de très fâcheuses rencontres peuvent souvent avoir lieu, malgré toute l'habileté du monde. Je n'ai pas besoin de vous avertir d'employer surtout vos bons offices en faveur de ceux que vous trouvez les plus généreux. Et cependant, si votre maîtresse vient à jeter les yeux sur un beau laquais, vous devez être assez désintéressé pour lui procurer cette fantaisie qui n'est pas une bizarrerie, mais un appétit très naturel. C'est encore la moins périlleuse de toutes les intrigues à domicile, et c'était jadis la moins soupçonnée, jusqu'à ce que, de nos jours, elle devint plus commune. Le grand danger est que ces messieurs, qui ne sont pas très difficiles dans leurs relations, peuvent bien ne pas être très sains. Et alors, votre maîtresse et vous, vous voilà dans une mauvaise passe, quoique pas tout à fait désespérée. Mais à vrai dire, je confesse que c'est une grande présomption à moi de vous offrir des instructions sur la manière dont vous devez conduire les amours de votre maîtresse, point sur lequel tout votre corps est déjà si expert et si profondément instruit, quoique votre rôle soit bien plus difficile que celui joué par mes frères, les laquais, vis-à-vis de leur maître en pareille occasion. C'est pourquoi je laisse à quelques plumes plus habiles le soin de traiter cette affaire. Quand vous serrez une robe ou une coiffure de dentelle dans une caisse ou un coffre, laissez en passer un bout afin, quand vous rouvrez le coffre, de savoir où la trouver.